Bien, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être encore une fois nombreux. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Daniel Tammet pour son troisième ouvrage qui a pour titre « L'éternité dans une heure » et pour sous-titre, on va y revenir, « La poésie des nombres ». Il avait écrit deux autres ouvrages qui avaient été d'énormes succès, « Je suis né un jour bleu » et « Embrasser le ciel immense ». Alors, certains d'entre vous le savent, tous le savent peut-être pas, et on va le préciser, je pense qu'il ne m'en voudra pas et qu'il m'aidera même à expliquer un petit peu sa personnalité tout à fait particulière et qui lui a valu aussi ses succès. C'est que Daniel Tammet, et on peut le dire, souffre d'autisme Asperger. Mmh. Alors vous nous préciserez peut-être ce que veut dire Asperger par rapport à l'autisme. Et que par ailleurs, il est doué de synesthésie et nous expliquera en deux mots à quoi correspond et ce que signifie la synesthésie. Et à partir de là, nous reviendrons évidemment sur le fait qu'il ait été désigné en 2007 comme l'un des 100 génies vivants. Donc voilà, vous avez devant vous l'un des 100 génies vivants, il faut quand même le souligner. Et puis nous reviendrons effectivement sur les nombres, sur les chiffres et leur rapport avec éventuellement l'art, la poésie, la musique, la peinture. Et je soulignerai au passage que ce génie vivant que vous avez devant vous parle 12 langues, et nous dira peut-être pourquoi, comment justement cette synesthésie l'a aidé à apprendre ces langues et quelle facilité lui a apporté cet élément. D'abord, est-ce que vous êtes écrivain, poète ou mathématicien ?
Merci d'abord, merci à vous d'être venus aussi nombreux, merci à Bordeaux, c'est la première fois ici à Bordeaux, donc je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je suis heureux de faire partie des 100 génies vivants, plutôt vivants que morts.
Mieux vaut être génie vivant que génie mort.
Exactement. Et puis, je suis écrivain, effectivement, je suis écrivain. Je ne suis pas mathématicien, même si je suis passionné par les idées qui se trouvent dans les mathématiques, comme l'infini, la complexité, la façon les humains de catégoriser, de trouver les façons de nommer et de catégoriser telle ou telle chose.
Mais de ranger les gens.
De ranger soit les nombres, soit les personnes, soit autre chose.
Donc, d'ailleurs, vous écrivez quelque part dans votre introduction... il existe de nombreuses similitudes dans les schémas de pensée et de création entre les écrivains et les mathématiciens.
Exactement. Pour moi, je trouve qu'il y a énormément de passerelles entre les mathématiques et la littérature. Et d'ailleurs, c'est dommage que souvent, et en France, apparemment, ça se fait beaucoup, que dès notre plus jeune âge, on se dit soit on est littéraire, soit on est plutôt mathématique. Sciences, etc. Et soit on peut être l'un ou l'autre, mais c'est extrêmement rare et parfois même mal vu d'être les deux.
D'être doué pour les deux.
D'être doué pour les deux ou de voir une complicité entre les deux. Moi, je vis avec cette complicité. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre quelqu'un qui se dit à la fois littéraire, quelqu'un qui apprécie la poésie, les romans, l'écriture, etc. et quelqu'un qui trouve chez les mathématiques, le travail d'un mathématicien, cette exploration également des possibilités de la vie, de l'existence, cette part aussi d'aventure et de l'imaginaire.
Alors, on va faire une petite parenthèse. Tout d'un coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes d'origine anglaise ?
Oui.
Vous êtes l'aîné de 9 enfants. On va y revenir en parlant des chiffres. Et pourquoi vous avez adopté la France et que vous vivez dans le sud de la France ?
Non, je vis à Paris.
Vous vivez à Paris,
mais vous vivez à Paris maintenant. J'ai vécu 3 ans près d'Avignon. Là, je vis depuis 2 ans à Paris. Donc ça fait 5 ans que je suis en France. Je compte bientôt prendre la nationalité française. Je sais qu'il y a certains qui quittent la France, mais moi je l'adopte, contraire aux autres. Et pourquoi ? Parce que pour moi, la France, c'est le pays de l'écriture, et un regard sur la culture que je trouve unique, extrêmement important, un respect du cerveau, du travail de quelqu'un qui est dans l'imaginaire, qui est dans la pensée. Et donc, parmi d'autres raisons, raisons sentimentales également, je me trouve ici en France. Et puis, vous avez parlé du fait que je suis sur le spectre autiste, je ne dirais pas que je souffre d'autisme, mais c'est vrai que j'ai un parcours qui est lié à l'autisme. J'ai un cerveau qui, ses connexions ont évolué depuis bien d'années, grâce, on pourrait dire ainsi, de cette perception différente des gens, du monde, des nombres, des mots.
Alors, ASPG, dans l'autisme, c'est quoi cette forme d'autisme?
Alors, à l'origine, c'est un mot allemand, Asperger. En allemand, c'était un scientifique, Hans Asperger, qui a découvert dans les années 40, même si, en fait, le diagnostic se fait uniquement depuis les années 90, qu'il y a des gens qui parlent, qui ont des émotions, qui sont capables de plein de choses, mais qui ont des troubles envahissants de développement liés à une différence dans l'évolution de ces connexions dans le cerveau. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme d'haut niveau, c'est le genre d'autisme que je vis avec, et qui fait que, oui, effectivement, et surtout enfant, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis, par exemple, dans des tâches même quotidiennes. Et en même temps, j'ai toujours une imagination qui on crée des liens d'amitié, d'affection, de passion même, pour les nombres et pour les mots, pour les langues, pour l'écriture. Et aujourd'hui, j'ai la chance incroyable
vous vivez bien avec.
De vivre bien avec, et d'avoir une carrière à plein temps d'écrivain qui est pas donnée. C'est vrai, c'est extrêmement rare. J'ai une chance incroyable.
Et vous vivez totalement de votre écriture.
De mon écriture. Alors, le premier livre a été traduit en 24 langues, et on est à 1 million d'exemplaires pour les 3 livres, tout confondu. Donc j'ai énormément de chance, je reconnais. Et puis, c'est suite aussi à beaucoup de travail, beaucoup de ce qu'est l'écriture, même si on est doué,
oui,
on peut dire ainsi, c'est un travail aussi, bien évidemment.
Pouvez-vous nous donner aussi quelques éclaircissements sur la synesthésie, puisque vous en êtes doué, doté, qu'est-ce que ça apporte, en quoi ça consiste?
La synesthésie, j'ai parlé brièvement de ces connexions dans le cerveau. Pour la plupart des gens, le cerveau fait ainsi que les capacités qu'on a sont cantonnées dans des régions différentes et bien séparées dans le cerveau. Donc il y a une partie consacrée aux langues, et une partie consacrée aux nombres, et une partie consacrée aux couleurs, etc., aux émotions, et ainsi de suite. Et il y a cette séparation, puisque c'est tellement important. Sinon, on peut souffrir de la folie, on peut souffrir de la schizophrénie, on peut avoir, comme moi, j'ai eu malheureusement enfant, des crises d'épilepsie. Donc c'est extrêmement important, souvent, d'avoir quand même cet ordre que le cerveau s'impose dès notre plus jeune âge. Mais chez certains, autistes ou pas, il se trouve que les connexions font en sorte que...
Mais la synesthésie ne va pas forcément avec l'autisme.
Non, pas toujours. Il y a parfois une complicité entre les deux conditions, mais ce n'est pas la même chose. Et par exemple, Rimbaud, quand il parlait de ses voyelles, est-ce que c'est vraiment la synesthésie ou pas? Ça, on peut avoir le débat, on ne sait pas. Mais il n'était pas, que je sache, autiste. Donc il y a... Puis il y avait quelqu'un comme Nabokov, Vladimir Nabokov, que j'estime énormément, dont je parle un peu dans le livre, et que je soupçonne, il n'y a pas de... qu'il était, mais déjà il était synesthète, c'est sûr, il dit lui-même dans ses écrits, il voyait comme moi les mots en couleur. Mais je pense aussi qu'il était autiste au niveau. Je pense qu'il y a beaucoup dans son comportement qui l'indique, même si à l'époque, ce n'était pas impossible de diagnostiquer. Et dans la synesthésie, donc, on a ces connexions qui font en sorte, en fait, que ces régions qui sont normalement séparées, en fait, se lient. Et donc, on a, quand on voit les mots, les nombres, on voit des couleurs, puisque les deux parties de cerveau commence à se parler, il y a une complicité entre elles. Quand on parle des langues, et tout d'un coup on voit les nombres ou l'inverse. Et je pense qu'il y a une espèce de synesthésie universelle aussi. Je pense qu'on est peut-être tous nés avec ces capacités et que ça se perd malheureusement suite au développement normal du cerveau qui... normal, c'est tout à fait normal qu'il veut faire en sorte qu'on n'a pas des problèmes de folie, etc. Et aussi dans l'éducation. Parce qu'en France, en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs, très tôt, l'éducation fait en sorte qu'on doit apprendre d'une telle ou telle manière. C'est extrêmement formaté. Et comme j'ai dit dès le début, c'est extrêmement dommage, par exemple, de diviser tout de suite les mathématiques
en catégories,
ouais, de la littérature.
Alors, qu'est-ce qui vous a doté, qu'est-ce qui fait que vous avez été doté d'une telle mémoire et en même temps d'une telle capacité et facilité à apprendre les langues? Je rappelais tout à l'heure que vous parliez 12 langues et que vous avez même, il me semble, à un moment, relevé un défi d'apprendre une langue en quelques semaines.
C'était l'islandais.
L'islandais. Oui, en quelques semaines, on apprend l'islandais, c'est tellement simple. Et de soutenir une interview à la télévision en islandais. Oui. Alors, bon, c'est quoi ça? Ça vient d'où, ça? C'est la synesthésie?
C'est la synesthésie en partie, parce que je pense que dans chaque langue, il y a sa part de logique, qui est intuitive, qui s'apprend, mais il ne faut pas aller par la voie qu'on apprend tous au lycée, avec les livres, avec les tables de conjugaison, avec les livres extrêmement...
Non, vous faites ça comme ça.
Non, c'est quand même toujours... Il faut aller déjà à la rencontre de ceux qui parlent cette langue. Il faut parler avec eux, bien évidemment. Il faut apprendre cette langue... comme une langue vivante, il faut avoir des rencontres, il faut écouter la musique, il faut lire les romans, il ne faut pas juste s'asseoir dans une classe, imaginer que c'est un truc neutre, scientifique, qu'on étudie comme ça, une langue, ça bouge.
Et c'est lié à la mémoire? Totalement?
Non, ce n'est pas la mémoire. Je ne dirais même pas que c'est la mémoire, parce qu'il y a des gens qui ont une forte mémoire, mais qui ne parlent pas plusieurs langues. Je pense que c'est, en tout cas dans mon expérience, ceux qui écrivent, et qui écrivent avec créativité, avec imagination, dans mon expérience à moi, ils parlent plusieurs langues. Déjà parce que dans la créativité, il y a cette façon de regarder les choses différemment. Et c'est quoi une langue finalement? C'est une façon de regarder le monde différemment. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de mots, il s'agit aussi d'une façon de percevoir. En français, par exemple, le mot « clé » est féminin. Et souvent, quand on demande aux Français, en tout cas, il y a des expériences scientifiques, qu'est-ce que c'est une clé? Imaginez une clé. Les Français disent que c'est quelque chose de petit, doré, etc. Puisque, apparemment, le fait que ce soit un mot féminin fait en sorte qu'on a cette imagination pour ça, tandis qu'en allemand, par exemple, Schlüssel, clé, c'est un mot masculin. Et pour les Allemands, ils considèrent que c'est un objet plutôt lourd, plutôt plus grand, plus lourd, plus... Voilà, donc,
non, mais ça, c'est ce que masculin. Disent les Français, c'est ce que disent les Allemands, ou c'est votre interprétation?
Non, il y a
de
des expériences.
Clé allemande et de la clé
il y a des expériences où les scientifiques ont posé la linguiste, ont posé cette question aux Français, aux Allemands, aux Espagnols. Et j'imagine que quand je rentre dans chaque langue, je vois En tout cas, j'essaie de trouver, je cherche cette sensibilité, cette intuition qui est le propre de chaque langue. Et Tolstoï, par exemple, est encore un écrivain que j'estime énormément, qui était également fasciné, bien évidemment, par la littérature, mais aussi par les mathématiques. On parle énormément dans son livre « Guerre et paix », par exemple, donc, comme j'explique dans ce livre, quand il parle énormément de calcul différentiel, par exemple, il parlait sept langues. Mais on ne dit pas de Tolstoï normalement, mais c'est incroyable, il parlait sept langues. On parle de son écriture, on parle de son génie, mais c'est surtout ça. Et le fait qu'il parlait cette langue, ce n'était pas son génie, les langues, c'était qu'il avait cette perception du monde qui faisait en sorte que... Donc c'était plutôt symptomatique de quelque chose qui était plus central. Et pour moi, sans fausse modestie, mais je trouve que c'est la même chose.
Alors je vous demandais si c'était votre interprétation personnelle, la clé masculine ou la clé allemande et la clé française, parce que vous avez quand même une drôle de tournure d'esprit. Hein. Parce que déjà, ou dès le départ, vous dites, alors oui, je suis l'aîné de 9. Ah, 9, c'est quand même un chiffre très à part. Et puis après, vous enchaînez, vous dites, oui, on était 9. Et alors, si on calcule bien, il y avait 512 manières différentes de nous réunir. C'est quand même bizarre de se dire, tiens, on dit qu'on est 9 et on va penser tout de suite qu'on peut se réunir à 512 façons particulières. C'est quand même étrange.
Oui, je suis comme ça. Pour moi, c'est normal. Je pense comme ça. Oui. Mais voilà, c'est ça l'écriture. C'est ça qui est beau. Qu'on partage quelque chose qui est peut-être au premier abord atypique, bizarre même. Mais en me lisant, je pense qu'on trouve que finalement, oui, c'est extrêmement logique. C'est tout à fait compréhensible. C'est vrai qu'il faut... Il faut expliquer, il faut... Et c'est ça, je trouve,
très intéressant. Et ça, c'est parce qu'on part de 9, pardon, et que on prend 2, que multiplie 2, que multiplie 2, que multiplie 2, c'est ça. On arrive à 512.
Oui, il faut expliquer, parce que moi, je suis l'aîné de 9 enfants.
Voilà.
Et petit, les gens me disaient tout le temps... Mais là, vous êtes partout, votre famille, on vous voit partout, vos frères et vos sœurs. Et j'ai fait le calcul que... En fait, pour les combinaisons possibles entre ces 9 personnes, on peut dire par exemple la première personne et la troisième personne, la première personne et la deuxième et la quatrième, la première et la neuvième, la deuxième et la huitième. Combien de combinaisons sont possibles? Il y a un calcul extrêmement facile à faire, c'est de dire que puisqu'il y a 9, donc, j'explique le calcul plus clairement dans le livre, mais donc on prend le chiffre 2, puisqu'à chaque instant, soit on est là ou soit on n'est pas, donc 2, 2 possibilités, et on multiplie par le nombre de personnes. Donc, il y a 9 personnes, donc on multiplie 9, le nombre 2, 9 fois.
9 fois, pardon.
Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2, ainsi de suite, et il y a 512 façons de voir soit moi et mon
c'est
frère.
C'est tellement simple
soit
et tellement logique, c'est vrai. Et là, on en arrive aux ensembles, là, parce que c'est assez logique d'arriver aux ensembles. Et là, on entre vraiment dans le contenu même. Nous, ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est évidemment beaucoup la littérature et les chiffres et les nombres. Et vous expliquez aussi d'une façon assez jolie comment Borges s'intéressait aux ensembles. Et alors, oui. Vous faites une démonstration incroyable à travers un texte que je ne sais pas du tout de Borges, qui classe les animaux de façon absolument ahurissante.
Mais moi, j'adore Borges, qui était, encore une fois, écrivain fasciné par les mathématiques, par les idées mathématiques. Il n'était pas mathématicien, mais était fasciné par ses idées. Et ses idées... enrichissait énormément son écriture. Et c'est un... vous pouvez le lire, si vous voulez, ce passage, parce que c'est magique. Et
voilà.
Il imagine...
Borges dit, c'est dans l'Imperium céleste du savoir bienveillant, qui est donc l'ouvrage de Borges, il dit les animaux sont classés comme suit, je vais le faire très rapidement, A, ceux qui appartiennent à l'empereur, B, ceux qui sont embaumés, C, ceux qui sont dressés, D, les cochons de lait, E, les sirènes, F, les animaux fabuleux, etc., etc., J, les animaux indénombrables, K, ceux qu'on dessine avec un pinceau très fin en poil de chameau, etc., etc., ceux qui viennent de casser le vase de fleurs, et ceux qui, vus de loin, ressemblent à des mouches.
Oui. Alors, pourquoi on...
Est-ce que c'est très naturel, tout c'est... ça, quand même?
Ben, pourquoi pas? Oui. Pourquoi on ne fait pas ça tous les jours, de se dire, mais aujourd'hui, j'ai vu un chien
tous
qui...
Tous les matins, puis déjeuner...
J'ai vu un chien qui, de loin, ressemble à un mouche. Plutôt que de dire...
Ah, ça, je comprends qu'on soit surpris de voir un chien qui ressemble à une mouche. Ça, je vous l'accorde, oui.
Ben, c'est plus intéressant, ça, que de dire, il était brun. Moi, j'ai vu beaucoup de chiens qui sont bruns, mais de dire que c'est un chien qui ressemble à une sirène ou qui appartient à un empereur, qui de loin ressemble à un mouche. On est dans c'est un jeu bien évidemment, mais on est vraiment dans la littérature là, et on est dans les mathématiques aussi, parce qu'exactement comme dans la littérature, dans les mathématiques, on est dans la façon de créer des catégories, de se dire c'est quoi ce nombre là, est-ce que c'est un nombre premier, est-ce que c'est un nombre pair ou impair, est-ce que c'est ainsi ou ainsi. Et c'est ça, c'est extrêmement intéressant. On fait ça tout le temps, sans y penser. On crée des catégories, et sans y penser, on se dit, cette personne-là appartient à telle ou telle catégorie. Parfois, ce sont des préjugés, parfois, ce sont des clichés, parfois, souvent, ça appartient à notre culture, à notre langue. Encore une fois, une façon de dire une clé, mais bien évidemment, une clé, c'est féminin, ou bien évidemment, comme dirait l'allemand, bien évidemment, c'est masculin. Donc, chaque... Et c'est ça qui est beau dans la littérature comme dans les mathématiques, on peut réfléchir sur ces catégories et aller au-delà de cela, de se dire on n'est pas prisonnier de ces catégories, de dire que quelqu'un est autiste, qui ne parle pas, qui n'a pas d'émotion, qui n'est pas capable d'écrire un roman ou d'écrire un beau livre de littérature. Et on peut aller au-delà de ces clichés ou de ces catégories et dire mais effectivement... il peut être comme ci ou comme ça. Donc le monde est ainsi. C'est un monde infini. Donc tout est, comme dirait François Hollande, tout est possible. Presque.
Mais pas normal.
Bah, le nombre pi, puisque vous parlez de normal, le nombre pi que j'aime beaucoup,
ah oui,
j'en parle dans le livre, les mathématiciens l'appellent ce nombre normal. Puisque pour les mathématiques, normal, que ça veut dire? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans la suite de décimales infinies, vous mettez votre doigt comme ça, et ça peut être un 0, ça peut être un 9, ça peut être un 8, ça peut être un 7, ça peut être n'importe quel chiffre de 0 à 9. Il n'y a pas de façon a priori de voir quel chiffre ça sera. Et si ce n'est pas un nombre normal, bah, a priori, on peut mettre notre doigt et dire la probabilité... c'est que c'est un 6, c'est qu'un 5, c'est que c'est... Donc, normal, pour les mathématiciens, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. Ça veut dire que c'est le hasard, en fait. Ça ressemble au hasard.
Alors, je voudrais qu'on vienne... ça, c'est pas le hasard, c'est qu'on parle du zéro et du rien.
Oui.
Et là, c'est très joli, parce que là, on fait vraiment une totale incursion à la littérature, puisque vous illustrez le zéro et le rien par Shakespeare.
Oui. Shakespeare, c'était... une grande découverte pour moi personnellement, parce que ma relation avec la littérature est assez complexe, puisque, comme j'expliquais dans mon premier livre, mon premier ouvrage qui était une autobiographie de mon enfance, avec l'autisme, j'explique qu'enfant, je ne lisais pas de romans, je ne lisais pas de la fiction, je ne comprenais rien de tout ça. Je lisais surtout les dictionnaires, les encyclopédies, parce que là, il y avait les données, il y avait les faits, il y avait des choses que je comprenais. Et en grandissant, en évoluant, j'ai changé, j'ai appris plein de choses, et j'ai commencé petit à petit à mettre mon nez quand même dans ces romans, dans ces livres. Et au lycée, j'ai appris les pièces de Shakespeare. Et c'était l'amour. Je suis tombé amoureux de cette écriture incroyable parce que c'était un langage extrêmement, extrêmement imagé, avec des personnages, comment dire en anglais, plus grands que la vie. C'était les gens, le roi, l'air dont je parle dans le livre, qui il parle avec sa fille de rien, justement, qu'est-ce que c'est le rien, le zéro. Et Et je trouve dans la littérature, j'ai trouvé dans la littérature une façon d'apprendre l'empathie, d'apprendre un langage social, le langage sentimental, d'apprendre qu'est-ce que c'est l'amour, la joie, le deuil, la jalousie, d'apprendre tout cela. Et j'ai appris ça grâce au livre, grâce à la littérature, grâce à la lecture. Donc je dois tout au livre. Et comme j'explique aussi dans le premier livre, j'étais né dans des banlieues de Londres extrêmement modestes. Mes parents n'ont même pas du bac, travaillent dans des usines, mais ils adoraient lire. Et même quand on n'avait pas de musée, de théâtre, de cinéma, il y avait une bibliothèque. Et j'allais tout le temps lire là-dedans. Et un jour, tout jeune, un peu comme dans une histoire de Borges, je me souviens toujours que je suis entré, je regardais, peut-être la première fois, l'une des premières fois que je suis entré dans une bibliothèque, je voyais tous ces livres avec un nom différent sur chaque livre. Je me suis dit, si je cherche suffisamment longtemps, je vais trouver le livre avec mon nom dessus. Et comme cela, je vais l'ouvrir et je vais découvrir l'histoire de ma vie. Et comme ça, je peux, déjà, parce que je porte mal les surprises, donc là, il n'y aura pas de surprise. Je vais faire comme cette malheureuse habitude de ma part, mais parfois, avec un livre, j'ai tellement envie de savoir qu'est-ce qui va se passer que je tourne déjà à la dernière page. Je ne veux pas attendre, je veux savoir.
C'est la fin d'abord.
Exactement. Et mais comme Nabokov, comme j'explique dans le livre, qui écrivait ses romans souvent en commençant par la dernière page.
Oui, bien.
Et donc je cherche, et bien évidemment, je ne trouve pas mon livre. Et il fallait du temps pour que je comprenne que pour trouver mon livre, il fallait d'abord l'écrire moi-même, ce que j'ai fait en trois fois. Et donc, qui se trouve maintenant dans le monde entier, dans 24 langues, ce qui est pour moi incroyable. Vraiment, c'est un
parcours. J'ai le trouvé plus facilement. Ouais,
c'est un parcours incroyable, vraiment. Et et dans Shakespeare.
Alors Shakespeare, vous écrivez quelque part, ça c'est très étrange, il appartient à l'une des premières générations d'écoliers anglais à apprendre l'usage du chiffre zéro.
Oui, c'est ça en fait. C'était dans le 16e siècle, en Angleterre, en Europe en général, on utilisait toujours les nombres romains. Donc pour 10, on utilisait une lettre X. Pour 5, c'était un V, etc., etc. Et on n'utilisait pas les chiffres tels qu'on les utilise aujourd'hui. Et donc, le zéro n'existait pas. Ce qui est normal, parce que ça ne représente rien. Donc, quelque part, voilà, donc, c'est logique. Et ça n'existe pas.
Donc, rien, on ne le matérialise pas.
Exactement. Et à partir de ce moment, en Angleterre, comme dans les autres pays européens, on commence quand même à apprendre aux enfants, aux élèves, cette idée qu'il existe quelque chose qui n'existe pas. On peut parler de la présence, de l'absence. On peut imaginer 3 souliers, 4 souliers, 5 souliers, mais pourquoi pas 0, 0 souliers. Ici, dans cette salle, il y a 0 éléphants. Voilà, il y a 0...
Encore que.
Donc, il y a 0 chiens qui ressemblent de loin aux mouches.
Une mouche. Ah,
donc, etc. Et donc, on peut en parler. Donc, c'est logique quelque part qu'il y a un symbole. Et Shakespeare, le petit, est déjà fasciné par les mots, par les... et peut-être synesthète, je ne sais rien. Ces sonorités, ces rythmes, ces couleurs peut-être, ces textures aussi. Était absolument, mais bouche bée, fasciné par cette idée qu'on peut parler de l'absence comme ça. Et donc, dans ces pièces, je les lisais avec beaucoup d'attention et j'étais ravi, mais ravi que partout dans ces pièces, le plus grand dramaturge dans l'histoire était en fait fasciné par les mathématiques. Écrivait incroyablement bien, mieux que n'importe quel mathématicien. De qu'est-ce que c'est en réalité un zéro, quand on parle de zéro. Et donc, c'est ça que je trouve très beau et très intéressant, et c'est ça qui est dommage dans les écoles et les lycées, que l'important, c'est pour les mathématiques, les histoires. Parce qu'au fond, c'est quoi les mathématiques quand même? Ce sont les histoires. Et si on apprenait votre langue, qui est le français, à l'école ou au lycée, si vous aviez appris le français uniquement avec les tables de conjugaison, etc., comme moi, j'ai eu le malheur de l'apprendre au début en Angleterre, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. J'ai jamais, depuis 20 ans, rencontré un Français qui me dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. J'attends toujours cette conversation, pas très intéressante. Mais il y a des gens qui parlent des corbeaux et de fromage et de renards. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi je n'ai pas appris ça au lycée ?
On ne prend pas pour des mouches, d'ailleurs.
Hein, non, exactement. Donc, de la même manière, je ne vois pas en quoi on ne devrait pas apprendre aux enfants de parler, comme Shakespeare, de zéro et des idées mathématiques avec les histoires. Parce que les mathématiques, comme la littérature, ce sont les histoires qu'il faut raconter.
Alors, surtout pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi, en mathématiques, on sait, de temps en temps, on parle des grands nombres. Et là, vous avez effectivement un chapitre fort intéressant sur les grands nombres, où vous dites que le poète Pindare écrit « Le sable ne saurait être compté ». Et l'idée est la suivante, c'est que finalement, pour exprimer une quantité très très grande, on employait l'expression « sable sang ».
Oui.
Et on va arriver sur Archimède. Et ça, je trouve ça très 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 intéressant.
Oui.
Et je le dis tout de suite, la multitude.
Oui, la multitude. Parce que, mais là encore, on imaginait mal la possibilité de compter chaque grain de sable dans l'univers. À l'époque de Pindare, de ce grand poète de la Grèce antique, et d'Archimède, qui venait un peu plus tard, grand mathématicien de l'époque, les gens disaient, il y a tellement de grains de sable qu'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de façon même de l'imaginer, c'est impossible. Et Archimède, bon mathématicien, comme un bon écrivain, un bon poète, disait, mais au contraire, on peut, avec l'imagination, on peut tout faire, on peut tout compter, on peut tout... il a exposé au roi de l'époque, Guélon, je crois qu'il s'appelait, que... on peut commencer par un nombre, 10 000, parce que pour eux, à l'époque, c'était déjà énorme, 10 000, et on peut multiplier 10 000 par 10 000, par 10 000, par 10 000, et continuer ainsi de suite, pour arriver aux nombres qui sont...
Il a d'ailleurs fait une démonstration assez incroyable que vous relatez là. Archimède se donna beaucoup de mal pour disposer d'une marge d'erreur considérable. En calculant la taille d'un grain de sable, il compara 10 000 grains de sable à une graine de pavot, puis aligna patiemment les graines sur une raie et l'estima ainsi à 25 le nombre de graines de pavot nécessaires pour mesurer un pouce de sable.
Oui. Et à partir de ce calcul, il s'est dit, mais c'est ça, il faut tant nombre de grains de sable pour ça, un pouce. Mais donc, il calcule combien il faut donc du pouce pour la Terre entière, pour l'univers.
Ah oui, alors là, c'est phénoménal parce qu'il y a deux lignes de zéro, là, je dis tout de suite, pour mesurer effectivement le diamètre de l'univers. Et alors là, tout d'un coup, il y a une chose très intéressante, c'est qu'apparaît le mot myriade. Comme oui. Quoi, effectivement, des chiffres, on peut passer à la littérature.
Oui, exactement. Et par la suite, mais aussi récent que 1940, je crois, on a inventé un mot qu'on utilise tous les jours maintenant, c'est le mot Google, qui est devenu le mot Google pour l'Internet, etc., mais qui s'écrit un peu différemment. Et Google, c'est quoi? Pour les mathématiciens, c'est un 1 suivi de 100 zéros. Donc c'est un nombre extrêmement grand. C'est pas un million, c'est pas un milliard, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et puis, il y a le nombre Googleplex, qui est, alors, il faut quand même réfléchir un peu, c'est un 1 suivi de Google 0. Donc, pas 100 zéros, pas 1000 zéros, pas 1 million de zéros, pas 1 milliard de zéros, Google 0. C'est presque, on a vraiment du mal à...
Mais on peut concrétiser, oui.
Oui, exactement. Parce qu'il n'y a rien, comme j'explique dans le livre, il n'y a rien du tout dans notre univers qui correspond aux quantités, pareil. Ils ont même calculé que la probabilité de trouver une souris sur la surface du soleil, l'espace d'une semaine, encore vivante, c'est plus probable de faire ça que de calculer jusqu'à un Googleplex. C'est... Donc, pour montrer que c'est un nombre vraiment... Mais ce qui est beau, j'explique aussi, c'est que finalement, on peut prendre n'importe quel nombre et ça reste tout petit, finalement. Puisque en prenant n'importe quel nombre, donc on appelle n, il y a n moins un nombre de nombres... x nombre de nombres moins que n, mais un nombre infini de nombres
au-dessus.
Donc, on reste vraiment face à l'infini. Malgré tout, c'est l'incompréhension totale. Et donc, notre seule arme, c'est l'imagination.
Et alors, je reviens sur ce mot myriade. C'est un mot grec, en fait, d'origine grecque.
Oui, exactement.
Qu'Archimède utilise.
Exactement.
En disant, finalement, ça peut à peu près définir des centaines de milliers.
C'est ça? Oui, c'est... Hein? Alors, il y a un calcul à faire que j'explique dans le livre. C'est 100 centaines, donc c'est 10 000. Et il faut multiplier 10 000 fois.
Et après, on parle de myriades, de myriades, de myriades.
Exactement.
Ouais. Ça commence où, un grand nombre, exactement?
C'est ça le débat. Il y a un débat qui date déjà de la Grèce antique, qui dit que, par exemple, si on dit « mais ça commence à partir de 10 000 », donc à partir de 10 000, c'est un grand nombre. Donc 9999, c'est petit.
Oui.
Mais dans ce cas, on se dit « mais attendez, si 9999 est petit », et le nombre 1, c'est petit aussi, c'est encore plus petit le nombre 1. Mais dans ce cas-là, 9999 plus 1, c'est petit. Et c'est un paradoxe qui date de la Grèce antique. On peut s'amuser des heures entières.
Et là, vous voyez, ce nombre dont les ordinateurs nous disent qu'il commence par 16294. Là, vous faites rentrer l'ordinateur tout d'un coup. Seul l'ordinateur peut calculer, vous pensez?
Oui, mais il y a les nombres qui... Il faut les ordinateurs, déjà, pour même connaître les premiers chiffres. Et puis, même avec les ordinateurs, il est possible, comme j'écris dans le chapitre, de trouver les nombres qui sont tellement énormes à nos yeux, que pour distinguer un nombre de son double, qui nous paraît comme assez simple, quand je vous montre un verre, et puis un verre qui est deux fois plus grand, on peut voir tout de suite lequel est le plus grand, le plus petit. Mais on peut imaginer qu'il y a des nombres qui sont tellement énormes qu'à partir d'un certain moment, à certaine taille de nombre, on n'est plus capable de savoir... De distinguer un nombre de son double, de son triple, d'un nombre qui est 100 fois plus grand que lui, parce qu'on est dans une... On a atteint les limites de notre imagination.
Alors, à cause de vous et d'un voyage au Canada, je ne regarderai plus jamais la neige de la même façon. Parce que la façon dont vous décrivez la neige et le flocon de neige, est tout à fait saisissant. C'est quoi un flocon de neige?
Alors, c'est toute la question. Les cultures ont des réponses différentes. Pour les Africains, ils disent que c'est du coton. Pour pour d'autres cultures, je crois que c'était des Chinois, ils disent que ce sont des fleurs. D'autres cultures, c'est de la soie, c'est des plumes. Et il fallait Kepler, dans le 18e siècle, je crois, astronome mathématicien qui disait mais non, c'est pas la substance qui compte finalement, c'est la forme, c'est la complexité en fait incarnée qui est le propre de chaque flocon.
Mais alors là c'est plus de la mathématique, c'est plus des mathématiques, c'est de la physique quasiment.
C'est la physique, mais qui s'apparente aux mathématiques, puisqu'il faut la mathématique quand même pour décrire cette complexité qui se trouve dans chaque flocon de neige. Et ce n'est pas un cliché de dire que chaque flocon de neige est unique, comme chaque individu d'ailleurs. Et donc, c'est ça, il y a un nombre infini, quasiment infini, de flocons de neige possibles. Donc, c'est ça qui est extrêmement beau. À chaque fois qu'on voit la neige, on voit en fait l'infini.
Et qui réfracte la lumière différemment.
Oui, selon la densité de neige, on peut le... Pourquoi on voit la neige en étant comme quelque chose de blanc? Parce que la lumière nous revient avec des... comment on expliquait? Avec un équilibre, en fait, entre les couleurs. Et cet équilibre, on perçoit comme la couleur blanc. Tandis que parfois, cet équilibre, quand la neige est plus dense, par exemple, on peut voir plutôt bleuté, parce que l'équilibre est un peu basculé par cette densité. On ne voit pas la lumière qui nous revient de la même manière. Donc, moi, je suis fasciné par la neige, parce que quand j'étais petit, je jouais avec la neige, comme je jouais avec les nombres, les mots. Et mais depuis, je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement poétique, parce qu'à chaque fois qu'il neige, alors bien sûr, c'est embêtant aussi, il fait froid, ça encombre et tout, mais quand on le regarde comme quand on était tout petit, on peut voir que c'est vrai que ça change notre regard sur le monde. Tout d'un coup, une poubelle n'est plus une poubelle, c'est une forme... c'est presque mathématique, les arbres, on les voit avec la géométrie et tout ça, la symétrie et tout ça.
Vous nous faites faire un voyage absolument phénoménal, parce qu'on passe de la neige blanche comme ça ou bleue selon qu'elle réfracte telle ou telle lumière ou qu'elle a telle ou telle épaisseur, et puis on revient tout d'un coup à ce que nous avons vu nous dans des illustrations historiques qui est l'empilement des boulets de canon. Vous avez eu des images où on voit des boulets de canon empilés sur le pont des bateaux, prêts à... Et vous dites que c'est pas étranger à la neige.
Non.
Vous pouvez m'expliquer comment on découvre tout d'un coup que l'empilement hexagonal des boulets de canon est la meilleure solution pour les stocker sur un pont en partant de la neige.
Oui, mais j'explique. Alors je cite...
Un
mathématicien qui a découvert, mais ça il y a plusieurs siècles déjà, que la meilleure manière, la manière la plus efficace pour empiler n'importe quel objet rond, donc comme les oranges par exemple, chez votre épicerie, c'est de faire ainsi, comme un triangle en fait. Il n'y a pas de méthode plus efficace que ça. Et de la même manière, dans un flocon de neige, il y a une efficacité incroyable dans la manière que chaque flocon a empilé, on peut dire comme ça, les atomes, les molécules d'eau congelées comme ça, pour créer ces flocons. Alors, ce n'est pas exactement le même processus, mais il y a une petite analogie qu'on peut tenter entre les deux.
Et avec lequel vous êtes amusé dans ce livre.
Exactement.
Alors quelque chose d'assez drôle aussi, c'est la façon dont vous nous parlez des mains,
oui,
et de la main en général, et des doigts, en nous emmenant compter 11 par 11. Il faut dire que c'est quand même un peu curieux, effectivement, de se dire, tiens, on va compter 11 par 11, c'est plus amusant que de compter 10 par 10.
Oui.
C'est plus simple. Bah oui, allons-y.
Oui. Oui, mais pourquoi on a un système qu'on appelle système décimal? Pourquoi on compte avec des dizaines et pas avec un autre nombre? Mais l'explication la plus simple, bien évidemment, c'est qu'on a tous, à peu près tous, 10 doigts. Et je dis à peu près tous parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas 10 doigts. Mon grand-père, par exemple, avait un accident un jour et a perdu un doigt. Donc, il n'avait que 9 doigts. Mais il comptait comme s'il avait... parce qu'il était déjà adulte, il avait appris comme ça. Mais que passe-t-il, ça que je pose comme question dans le livre, si on est né, pas avec 10 doigts, mais avec
11.
Non, avant qu'on y vienne, au 11, voilà. Ce qui est très étrange, c'est la façon dont vous détaillez effectivement la façon dont on compte sur ces doigts.
Oui, aussi, parce que
chaque... Parce que vous dites, on part de tel doigt et puis on revient à tel autre au lieu de passer sur l'autre main.
Oui, mais c'est, en fait, chaque culture a une
c'est
façon...
C'est très étrange.
Oui, chaque culture a sa façon propre à elle de compter avec les doigts. Donc, moi, je commence par le pouce gauche. 2, 3, 4, 5. Donc 5, pour moi, c'est toujours l'auriculaire gauche. Et puis, je continue ainsi avec l'auriculaire droite. 6, 7, 8, 9, 10.
Ah, vous êtes étrange, parce que moi, je partirais plutôt...
Il y a d'autres qui me disent, effectivement, qu'ils comptent comme ça. Alors, dans les pays arabes, où ils lisent pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, ils commencent par la main droite. Donc, 1, pour eux, c'est plutôt le pouce ou l'auriculaire droite. Et la fin, donc 10, c'est avec la main gauche. Et en Asie, ils ne comptent même pas avec deux mains. Ils utilisent une seule main, ils sont plus efficaces que nous. Ils commencent par le pouce gauche, peu importe si c'est gauche ou droite d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ils replient les doigts. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Et donc... Et je trouve ça fascinant parce que c'est extrêmement simple, on n'y pense même pas, mais effectivement, chaque culture a sa façon, avec ses doigts, de compter comme
alors
ça.
Comment on compte de 11 à 11 alors?
Parce que alors, avec ceux qui n'ont pas ces 10 doigts, mais qui ont 11 doigts, j'utilise
exemple. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont 11 doigts, vous.
Alors moi, j'utilise.
À part le bolène dont vous parlez.
Voilà,
là,
alors moi, j'utilise l'exemple d'un bolène qui était une reine anglaise qui, selon la légende en tout cas, avait 11 doigts. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir 11 doigts? Parce que c'est ça qui est beau dans les mathématiques, comme dans la littérature, qu'on peut imaginer d'être comme ça. On n'a pas 11 doigts, on n'a peut-être jamais rencontré quelqu'un qui a 11 doigts, on ne rencontrera peut-être jamais dans notre vie quelqu'un qui a 11 doigts, mais le fait qu'on peut poser une telle question et imaginer tout ça, et entrer dans une histoire comme ça, c'est exactement comme dans un roman, où on entre dans une histoire totalement imaginée, totalement absurde parfois, pour réfléchir finalement à nous-mêmes. Parce que même si on n'a pas 11 doigts, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir 10 doigts Et donc, Anne Boleyn, mais déjà le problème c'est qu'elle n'avait pas assez de mots. Parce que 10, ça veut dire un ensemble. Un ensemble de doigts. Donc, si on n'a pas 10 doigts, mais 11 doigts, mais le 10, c'est le 11e doigt, ce n'est pas le 10e. Donc, il fallait déjà un mot de plus, qui manque en anglais. Donc, il fallait trouver un autre mot. En français, on aurait dit, par exemple, puisqu'elle était, elle vivait en France, enfant. Donc, et après, elle venait en anglais, elle revenait en Angleterre. Donc, peut-être, elle comptait en anglais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour arriver, pour combler le mot qui manque. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Mais tout d'un coup, le son change aussi. Ce n'est plus son comme on l'imagine, ça devient autre chose. Donc, il faut, après 99, on est à... Mais si elle compte avec 10, après 9, donc ça devient 10. 10... Alors là, il faut inventer un mot encore, on n'a pas de mots. Après 80, on dirait quoi? Dizaine, voilà, dizaine. Donc, dizaine 1, dizaine 2, dizaine 3, dizaine 4, dizaine... Et ainsi de suite, pour arriver finalement à 100.
Alors, vous avez même trouvé un Cubain, Garrido, qui lui avait 12 doigts, 12, 12 doigts. Orteils, ce qui lui permettait de calculer les heures plus facilement. Parce oui. que 12, évidemment, pour calculer les heures,
exactement.
C'est plus simple.
Hein. Mais juste pour revenir un petit moment sur un brèche, pour finir cette histoire. Donc déjà, tu es confronté à ces problèmes-là. Et puis, il y avait quelque chose de très bête, c'est que le nombre 11, c'est un nombre premier. On ne peut pas diviser. C'est 10, ce n'est pas un nombre premier. On voit tout de suite, parce que ça divise par 2. Et par 5, voilà, les mains nous disent. Tandis que quand on a 11 doigts, on ne peut pas diviser. Il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de cinquième, il n'y a pas de quart. Donc, quand quelqu'un lui dit, par exemple, « je reviens dans une demi-heure », elle se pose la question, « mais de quelle demi vous parlez ?» la plus grande ou la plus petite. Puisqu'après, il y avait un demi qui avait 5 doigts et un demi qui avait 6 doigts. Donc, c'est tout bête. Mais voilà, c'est ainsi. Et puis, quand on a 12 doigts, c'est plus facile de faire le calcul. Pourquoi ? Parce que 12 se divise pas comme 10 de manière différente, mais de 4 manières différentes. On peut diviser par 2, par 3, par 4 et par 6. Donc, à chaque fois qu'on fait les fractions, c'est beaucoup plus facile de se poser, par exemple, les questions qu'est-ce que c'est 3 quarts plus 1 sixième.
Oui, vous me faites passer quoi, un examen
Non, mais c'est... mais quand on a 12 toits, oui, c'est beaucoup plus facile, parce que 3 quarts, mais bien sûr, c'est 9 toits. Un sixième, c'est 2 doigts, parce qu'un sixième...
Je vous ai dit dès le départ que j'étais très mauvais en maths.
Ah, donc 9 toits et 2 doigts, mais bien évidemment, c'est 11 toits, c'est 11 douzièmes. 3 quarts plus 1 6. Mais c'est beaucoup plus facile quand on compte. Et d'ailleurs, les Romains, ils étaient... Plus intelligent, plus futé que nous, peut-être, parce qu'il comptait les fractions uniquement avec les 12, avec le 12, pas avec le 10.
Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce chiffre pi que vous évoquiez tout à l'heure. Mm. Comme vous dites, l'admirable nombre pi.
Oui.
C'est le titre du chapitre.
Oui.
Ce chiffre pi dont vous avez fait des tableaux.
Oui. Pour moi, le nombre pi, alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce nombre, c'est le rapport entre la distance autour d'un cercle...
Le cercle, oui.
La circonférence. Le rapport entre cette distance-là et la distance au milieu d'un point à l'autre qui divise en deux moitiés parfaites le cercle, le diamètre. Et donc, c'est un nombre qui est à peu près 3, à peu près. Sauf que... c'est plus que ça, c'est plus que 3. C'est pas 4, c'est même pas 3,5 ou 3,25, c'est entre 3 et c'est un peu moins que 3 et 1 septième, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce qu'appellent les mathématiciens un nombre infini. Ça veut dire que même avec une feuille de papier aussi grande que notre univers, il n'y a pas assez de place pour écrire toutes les décimales pour calculer ce nombre. Et donc, chaque fois qu'il y a un cercle, comme ce cercle-là, par exemple, comme les pièces dans votre portefeuille, quand on parle des planètes aussi, n'importe quel cercle, on parle de ce nombre, qui est un nombre qui est plus grand que notre univers. Et cette idée-là, d'imaginer dans n'importe quel cercle l'infini, me semble tellement poétique, que tellement beau que je considère c'est comme un poème. Je l'appelle gigantesque poème numérique. Moi, parce que je vois les chiffres comme les mots, avec les couleurs, avec les sentiments, avec les textures, etc. Je vois ce nombre-là, ces décimales, presque comme un paysage, en tout cas comme un poème, avec ses motifs, avec ses rythmes, avec ses couleurs, avec ses émotions.
Pour composer ce paysage, vous écrivez combien de chiffres à peu près? Vous avez combien derrière la virgule?
Alors moi, j'ai appris par cœur plus de 22 000 décimales, 22 514 décimales, les premières 22 514 décimales, après la virgule, l'espace de 3 mois, pour les apprendre par cœur.
Mais vous les avez, pardon, parce que quand vous parlez de tableau, vous les avez dessinés, vous avez écrit quelque part
ou... Non, j'ai les
à... Ah, vous les...
À visualiser,
vous les mémoriser,
apprises par cœur.
Alors racontez-nous, justement, ça se passait à Oxford, c'est une histoire. Et ouais. Racontez-nous un petit peu ce défi que vous avez relevé là.
Pour moi, c'était un moment extrêmement personnel. J'étais pas dans l'envie de d'épater les gens, d'être dans un défi, d'être un singe.
C'était devant la télévision, hein, et tout, non?
Il y avait les journalistes là, puisque ça se savait qu'il y avait un fou qui allait venir réciter les nombres pendant les heures et les heures. Donc les gens intrigués venaient me voir, m'écouter. Mais l'intérêt pour moi était tout à fait personnel. Je voulais partager ma vie, qui était jusqu'à ce moment-là, à 25 ans, une vie extrêmement intime, intérieure, une vie que j'ai jamais pu partager avec d'autres personnes. C'est ça qui est difficile quand on est sur le spectre autiste. Et j'avais quand même à ce moment-là une envie folle de partager cette solitude, mais aussi cette beauté, ce mystère que j'ai retrouvé comme un amoureux dans les chiffres de ce nombre, qui est pour moi un poème qui part de tout, qui part de la vie, de l'amour, de la mort, de tout. Et donc j'ai appris par cœur, j'aime bien cette expression d'apprendre quelque chose par cœur, parce que pour moi vraiment j'étais dans le sentiment absolu. Et puis je suis allé à ce musée qui était dédié aux mathématiques, donc il y a les astrolabes, il y a des manuscrits mathématiques qui datent depuis des siècles, c'était un endroit. Il y avait même un tableau où avait marqué une équation d'Einstein dans les années 30, un calcul sur l'univers, la date de l'univers. Et donc, face à ça, je m'assois, je commence à réciter ce nombre. Et au début, les gens m'ont regardé et ils étaient plutôt perplexes. Alors
physiquement, vous étiez assis à une table
et... J'étais assis à une table. Il y avait une table plus loin des mathématiciens qui avaient la tâche un peu malheureuse de devoir vérifier chaque chiffre pour voir si j'avais bien raison, que je ne me trompe pas dans ce poème. Et il y avait un public. Et le public n'était absolument pas matheux. C'était les ouvriers. Mais vraiment, les ouvriers, ils avaient les mains sales de le travail, mais qui écoutaient parler de cette histoire. Bon, ils venaient. Des femmes de ménage, des adolescentes. C'était un week-end, donc c'était ouvert à tous. Il y avait même des touristes américains, à un moment donné, avec le chapeau Mickey Mouse sur la tête. Ils venaient, ils écoutaient, un peu perplexes, un peu... Bon, c'est marrant, une minute, mais bon. Et en fait, est resté. Parce que, il disait après, aux journalistes, c'était un moment pour eux religieux, il disait. Il y avait même certains qui avaient des larmes aux yeux. Parce que les chiffres, tels que je les récitais, avaient tellement d'émotions, tellement empreintes d'amour, de solitude, de peur, de fierté, de silence, de crainte, d'amour, que ça passait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai brisé ce mur qui m'a toujours entouré jusqu'à cet âge-là, jusqu'à ce moment-là, mes premiers 25 ans, le mur de l'autisme, qui est finalement comme une prison, mais une prison invisible. Et là, à partir de ce moment, j'ai compris que j'ai pu sortir de cela. J'ai pu partager cette expérience et parler d'une telle manière que les gens, même qui ne sont absolument pas dans la littérature, absolument pas dans la poésie, absolument pas dans les maths, comprennent, sont touchés, sont émus. Et j'ai compris que l'important, donc, si j'avais un don, finalement, c'était quoi mon don ? C'était pas simplement de compter, mais c'était de raconter. Et ce nombre m'a donné finalement le moyen de raconter. Un poème magnifique, un hymne à l'amour, à la vie, à l'univers, notre univers, à nous tous. Et ce nombre-là, l'espace de 5 heures, c'était fédérateur de nous tous dans cette salle. 5 heures et 9 minutes. Et j'aurais cité ce nombre sans erreur et les gens restaient, écoutaient, émus, touchés et à la fin ils applaudissaient. Et quelque chose avait passé entre moi et eux, il y avait une complicité qui s'est installée pendant ces 5 heures, comme j'ai dit dans le chapitre, pendant 5 heures et 9 minutes, l'éternité a visité une salle à Oxford. Et j'ai pu partager un moment d'éternité avec eux.
Alors pourquoi vous dites qu'il y a des chiffres brillants et des chiffres sombres ? Parmi les chiffres brillants, il y a le 1 et le 5. Parmi les chiffres sombres, le 6 et le 9.
Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, en tout cas, je trouve que le nombre 6, il faut bien le dire, est moche.
Et le 9 qui est à l'envers est pas mieux, c'est ça?
Et 9, bon, mais c'est un peu mieux. Ça fait un effort, on va dire comme ça. Mais tandis que le 1 ou le 5, mais c'est beau. Donc, quand on vit à nombre 11 ou 111 ou ainsi de suite, ben, on a de la chance. Tandis que quand on vit à nombre 69 ou 96, bon, il faut faire avec. Mais donc, je trouve souvent quand même que les gens me disent, entre nous, parce que souvent c'est une question presque de... Ils ont honte presque de l'admettre, mais ils ont des mots... ou les nombres qui ont un sens personnel, un sens propre à eux. Ils disent, mais moi j'adore le nombre 18, par exemple. Ou moi j'adore le mot, je ne sais pas, sympathie, par exemple. Sympathie, c'est joli comme mot, sympathie. Ou papillon. Et je pense que voilà, en chacun de nous, il y a cet univers qui est propre, nos propres mots, nos propres chiffres, et ce n'est pas une honte que ça fait partie du fait qu'on vit tel nombre d'années sur une terre qui est finalement une terre magique. C'est une étoile, comme disaient les poètes français de notre dernier siècle. Donc, pourquoi pas avoir chacun notre propre regard sur le 6, ou sur le 9, ou sur tel ou tel mot.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que tout d'un coup, on passe à un chapitre là où on part vraiment, alors on se croit aux chiffres et aux lettres, et vous dites, j'ai parlé de beauté mathématique pratiquement sans référence au nombre, mais les problèmes numériques offrent aussi de nombreux exemples de beauté, bien entendu. Et vous dites, voilà, un exemple personnel, la multiplication. De 473 que multiplie 911. La solution, moins 430 903. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans?
Mais vous ne voyez pas? Non, j'explique que finalement, quand on regarde ces nombres de près, quand on se pose la question qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de 430 903, quand on parle de 911, quand on parle de les autres chiffres, comme quand on parle de 6, ou quand on parle de 9, ou quand on parle de mots sympathiques, etc. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Et la difficulté qui est celle de la plupart des gens, c'est que les nombres ne disent rien pour eux. Quand on utilise un mot comme sympathie, c'est abstrait, mais quand même, il y a une image, il y a un sens, il y a quelque chose. Tandis que quand on utilise un chiffre, ça ne veut rien dire. Ce qui est dommage, parce que quand on parle de 9, ça a un sens quand même pour moi, puisque je suis l'aîné de 9 enfants. Donc, comme j'explique dans le tout premier chapitre de ce livre, ça a un sens.
Oui, mais c'est un chiffre sombre.
Oui, c'est un chiffre sombre, mais c'est pas 6, déjà.
Oui.
Donc... Et puis...
Et alors, plus loin, vous expliquez... Là, revenons au problème initial, il dit, c'est quand les nombres, ça va être plus simple. 473, vous allez voir. 473 est égal à 43 que multiplie 11. Le nombre 910 comprend 7 fois que multiplie 13 que multiplie 10. Nous jouons avec ses plus petits composants jusqu'à ce que nous découvrions que notre calcul initial équivaut à 430 que multiplie 1001 plus 43 que multiplie 11.
Oui.
Alors là, la beauté me saute à la figure.
Alors, mais il ne faut pas faire peur aux lecteurs. Les gens vont se dire, voilà, c'est que ça.
Non, ce ne sont que quelques petites incidences.
D'ailleurs, c'est le seul calcul dans tout le livre.
Exactement. C'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Ce 250 pages, vous avez trouvé le seul calcul. Donc, c'est bien.
Ah ouais, mais j'ai lu très attentivement.
Pour ainsi dire, voilà, je ne suis pas mathématicien, donc je n'appuie pas dans les équations, dans les théorèmes, et d'ailleurs pas vraiment dans les calculs finalement, puisque mon regard sur les calculs comme vous voyez, en disant ça dans le contexte et tout, c'est d'un écrivain qui s'amuse avec les nombres, qui essaye de trouver un sens qui est un sens lié à mon parcours, avec des couleurs, avec des émotions, avec des formes, etc. Et ça, je pense que finalement, c'est quelque chose d'extrêmement accessible à tout le monde, puisque c'est pour moi extrêmement important de montrer que, comme quand on parle de la littérature, quand on parle des mathématiques, c'est pour tout le monde. Moi, longtemps, je me suis dit, Tolstoï, par exemple, ce n'est pas pour moi. Je viens des banlieues en Angleterre, je ne me sens pas à même de lire un roman de 1000 mots sur tel ou tel sujet complexe, société, etc. Mais finalement, il y a 2-3 ans, j'ai lu. Je l'ai lu en français, puisque je ne lis pas le russe, et je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Il y a d'ailleurs un chapitre à ce sujet dans le livre. Mais de la même manière, c'est vraiment dommage, ça me frustre énormément quand les gens me disent « mais je ne suis pas matheux ». Parce que c'est comme si on disait, mais puisqu'on n'a pas aimé tel ou tel roman, mais je ne lis pas. Ben non, mais il y a un nombre infini de romans possibles. Donc, s'il y a
alors, il y a un nombre infini de romans possibles. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il y a un nombre infini de versions de romans.
Oui.
Combien y a-t-il de versions possibles de Lolita de Nabokov à lire, si on part...
Oui.
Si on suit votre exemple.
Parce que Nabokov, ce qu'il faisait Nabokov, c'était... Je vous avais prévenu qu'il était un peu autiste, Nabokov. Nabokov, il commençait souvent ses histoires pas au début, mais à la fin. Il utilisait les petites cartes sur lesquelles il écrivait les phrases, les faits, les statistiques, les idées. Et il faisait ça avec des centaines et des centaines, et parfois même des milliers et des milliers de cartes. Et à chaque fois, il les mélangeait pour trouver la meilleure combinaison possible, pour créer telle ou telle scène, telle ou telle page. Et il faut savoir que, avec seulement 10 cartes, on peut les mélanger d'un nombre de façons possibles, 3 millions de façons possibles, de mélanger 10 cartes seulement. 10 cartes, c'est rien du tout, c'est 2 ou 3 pages. Donc quand on est face à un roman comme le Lolita, qui est de 300 ou 400 pages, on a un nombre de combinaisons de cartes possibles qui est facilement au-dessus du nombre d'atomes dans notre univers. Donc, quand le livre est sorti il y a 60 ans, bientôt maintenant 60 ans, il y avait des critiques qui disaient que c'était magnifique, c'était un chef-d'œuvre, etc. Et d'autres qui disaient que c'était nullissime. Et moi, je me suis dit, mais face à cette gamme comme assez remarquable entre génie et nullissime, peut-être la maison d'édition a publié plusieurs versions de ce roman. Ils se sont trompés dans la façon de combiner les cartes de Nabokov. Et en fait, quand on fait le calcul, bien évidemment, quand on mélange comme ça n'importe comment les scènes, les cartes, les paragraphes, les phrases, etc., il y a des versions qui sont absolument ridicules, absurdes, abracadabrantesques, mais qu'il faut jeter dans la poubelle, mais il y a un nombre énorme de versions tout à fait lisibles, tout à fait intéressantes, tout à fait possibles, de Lolita. Possible, qui attend simplement une maison d'édition prête à les publier. Et combien, mais suffisant pour que chaque personne dans le monde ait sa propre version de Lolita. Et Flaubert, un jour, a dit un truc très intéressant en écrivant une lettre à sa maîtresse. Il disait que pour apprendre un infini de choses, il suffit, au fond, de connaître parfaitement 5 ou 6 livres. Et Flaubert, que j'estime énorme, bien sûr, il avait tort. Parce que pour apprendre, comme montre l'exemple de Lolita, un nombre infini de choses, il suffit de connaître parfaitement un seul livre.
Merci Daniel. Je voudrais terminer en citant une dernière phrase de votre livre dans laquelle vous dites « Cela me rappelle l'idée de Nabokov, selon laquelle on ne peut jamais lire un livre, mais seulement le relire. Un bon lecteur, un grand lecteur, un lecteur actif et créatif est un relecteur. » Donc je souhaite qu'on lise et relise le livre de Daniel Tammet. Et vous pouvez vous souvenir que ce soir, vous avez passé 1h30 à partager quelques moments, dont certains très exceptionnel, je trouve, avec l'un des 100 génies vivants.